Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Décryptage, votre émission de Cato Bell sur RCF. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité avec moi, j'ai en studio Axel Fischer, secrétaire général d'entraide et fraternité Vivre Ensemble, et Benoît Bourgine, professeur de théologie à l'UC Louvain. Bonjour.
Bonjour, bonjour Armelle, bonjour Benoît, bonjour à toutes et tous.
Bonjour, bonjour.
Alors comme d'habitude, deux sujets seront abordés pendant cette émission. Nous nous attarderons d'abord sur la pauvreté en Belgique. Quelle est la situation actuelle? Que peut-on faire pour y remédier? C'est ce qu'on verra en première partie d'émission. Et nous parlerons ensuite de l'antisémitisme toujours chez nous. De nouveau, nous verrons où en est la situation et nous mettrons cela en relation avec la chrétienté. Et enfin, nous finirons cette émission avec les zooms des décrypteurs. Dites-nous en deux mots, de quoi allez-vous nous parler d'aujourd'hui?
Alors, je voudrais mentionner un ouvrage particulièrement éclairant de Ella Wardi sur les origines de l'islam.
Très bien. Et Axel?
Eh bien, nous continuons ce chemin de carême et donc faire un petit mot, partager quelques impressions, quelques émotions sur cette campagne qui s'achève pour rentrer des fraternités. Voilà, on est là-dedans.
Très bien, donc le début de l'islam et la fin de campagne, un début et une fin. Oh, c'est bien, j'aime bien. Alors nous allons commencer, comme je le disais, par la pauvreté en Belgique. Statbel, l'agence statistique belge, a sorti début février des chiffres alarmants concernant les risques de pauvreté dans notre pays. Selon Statbel, donc, 2 150 000 Belges, soit 18,6% de la population, courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ces personnes se trouvent dans au moins une des situations suivantes. Donc, soit leur revenu disponible est inférieur au seuil de pauvreté qui s'élève à 1 450 euros pour une personne isolée et 3 045 euros par mois pour un ménage de 2 adultes et 2 enfants. En 2023, 12,3% de la population courait ce risque de pauvreté monétaire. Deuxième option, elles vivent dans un ménage à faible intensité de travail. Cela signifie que les membres de leur ménage en âge de travailler ont travaillé moins de 20% de leur potentiel au cours des 12 derniers mois. Cela concernait 10,5% de la population l'an dernier. Et enfin, troisième situation, elles sont en situation de privation matérielle et sociale sévère. Et en 2023, cela concernait 6,1% de la population. Pour chacun de ces indicateurs clés, la situation est la plus précaire en région Bruxelles-Capitale et la moins précaire en région flamande. La région wallonne se trouve entre les deux. Alors on parle, je rappelle, de plus de 2 millions de personnes qui courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Pourtant, on n'a pas l'impression que ça représente tant de gens que ça, la pauvreté.
Et pourtant, donc, quand vous dites 18%, donc on est presque à 20, donc on est à une personne sur 5.
Presque, oui.
C'est énorme, hein? Alors, pour aller un petit peu plus loin sur les chiffres que vous avez donnés, Armelle, ça représente 30% des Bruxellois et ça représente 18% des Wallons et des Wallonnes. Alors, évidemment, pas avec la même intensité en fonction des régions, mais la réalité est là. Et c'est interpellant que vous disiez, mais en fait, on n'en a pas l'impression. Et je pense qu'une des questions que l'on pourrait se poser, c'est évidemment le qui. Et avec le qui vient le où. Où sont-ils? Où sont-elles ces personnes? C'est une question intéressante finalement parce que ce sont souvent les plus pauvres et exclus de notre planète en général et de notre société en particulier. Ce sont des personnes qui sont donc en état d'exclusion et d'invisibilisation. Donc on invisibilise les populations marginalisées. Et si je peux partager avec vous une inquiétude croissante que nous avons chez Action Vivre Ensemble, Et avec les associations partenaires que nous soutenons, associations qui sont vraiment sur le terrain, on assiste par exemple à des phénomènes, alors en anglais on dit de city branding, en français on pourrait dire polissage des villes, hein, les rendre plus jolies, plus rondes, plus propres. L'objectif en fait c'est d'accroître la valeur de la ville et finalement de permettre une plus grande consommation, donc on va mettre des beaux magasins et pour que les gens aient envie d'aller dans les beaux magasins, il faut que la rue soit propre et donc il faut peut-être pas qu'il y ait un banc où il y a un SDF dessus. La ville devient donc un produit qui doit être vendu, on est dans une logique de marchandisation où l'immobilier finalement est transformés, hein, et donc ce ne sont pas les mêmes catégories sociales qui y ont un accès. Mais je vous donnais l'exemple du banc tout à l'heure, c'est l'immobilier et le mobilier. On assiste finalement à l'établissement de mobilier, entre guillemets, que je pourrais appeler anti-SDF. Donc on est évidemment dans une logique de gentrification, hein, je parle encore un petit peu anglais là-dessus, mais certaines pourraient dire embourgeoisement, d'autres pourraient dire boboisation, excusez-moi. Et la conséquence, elle est terrible. La conséquence, c'est la conséquence pour les plus vulnérables. Les SDF, on l'a dit, les sans domicile fixe, les jeunes, les drogués, les migrants, elles ne sont plus les bienvenus. Ça devient des indésirables. Ils n'existent donc plus ? Est-ce que parce qu'on ne les voit pas, ils n'existent pas ? Et je pense que c'est important de pouvoir le citer parce que ça pose la question du droit d'accès à la ville.
Vous, Benoît, vous vous imaginiez une situation pareille en Belgique ?
Alors tout ce qui vient d'être dit est vraiment très très important et très intéressant et je serais tenté de demander encore à Axel Fischer sur ces mécanismes là d'invisibilisation. Ça prend effectivement comme vous l'avez décrit l'habitude de rendre les zones urbaines, certaines zones urbaines, près des commerces, etc., plus d'un statut social plus élevé. Est-ce que ça veut dire que on repousse les pauvres dans des zones reculées, isolées, dénuées de services publics, avec évidemment un immobilier plus accessible, mais alors avec ce cercle vicieux qu'on observe en France aussi. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, il semblait que la Belgique soit épargnée depuis la France ou d'autres pays. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui peut indexer les salaires sur l'inflation ? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui met pas de limite au mois d'indemnisation du chômage ? Mais en réalité, on voit que ça n'est pas le cas. La Belgique n'est pas une île et elle commence à connaître cette pauvreté croissante. La date dans le mois où on est encore en rouge arrive de plus en plus tôt. Renoncer à des soins de santé, ça passe par là. Hein. En fait, la pauvreté, c'est ça qui combien c'est existentiel. Donc, je retournerai bien la question à Axel. Axel Fischer, sur le point de savoir. Oui, ces stratégies d'invisibilisation, c'est aussi le fait que ces personnes n'ont plus de voix au plan politique et que ce sont d'autres préoccupations. Et j'ai envie d'être un peu provocateur, à mon habitude, vous me connaissez. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences qui parfois font obstacle à la mise en avant de ce péril majeur qu'est la pauvreté, qu'est le fait de ne pas se soigner, qu'est le fait pour les jeunes de pas manger à sa faim. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement... Alors là, je pose deux questions un peu à Axel Fischer, qui malgré tout est plus compétente et bien placée pour le savoir. C'est d'une part, ces stratégies d'invisibilisation, est-ce qu'il y a d'autres formes que simplement la gentrification, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il n'y aurait pas des thèmes, je pense par exemple, à la manière de traiter une certaine écologie qui devient quelque chose auquel il faut céder sans même faire des études d'impact, est-ce que ça risque pas d'être contre-productif et d'être même peut-être une menace pour le pouvoir d'achat de la classe moyenne ?
Si je peux résumer la question, en gros, c'est est-ce qu'il n'y a pas un ou deux arbres qui cachent toute la forêt ?
Très bien. Axel ? Tout à fait.
Vous avez 2 jours pour y répondre.
Malheureusement, non.
Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Je me nourris de ce que les associations de terrain avec qui Vivre Ensemble travaille quotidiennement, que nous soutenons, que nous rencontrons, peuvent nous amener. J'ai envie d'abord pouvoir vous dire que oui, ces populations-là, elles sont repoussées vers d'autres zones et des zones qui, du coup, les mettent dans des cercles vicieux qui font que ces populations-là deviennent de plus en plus pauvres parce que, par exemple, il y a moins d'accès au transport public et donc c'est moins facile. Si on n'a pas de voiture, s'il n'y a pas de transport public, comment est-ce qu'on obtient ou comment est-ce qu'on maintient un travail, le fait de pouvoir se lever tous les jours et d'aller travailler et d'arriver à l'heure, hein, c'est un exemple entre guillemets tout bête et tellement important. Ça veut dire aussi que on n'a pas spécialement accès à des logements de qualité et qui dit logement de qualité, dit toute une implication sur, on peut en parler plus longuement, mais la facture d'eau, la facture d'énergie. Alors, oui, c'est une invisibilisation, je vais y arriver tout à fait, au niveau de la voie politique, puisque, en fait, avoir droit à la ville, c'est aussi faire partie d'un collectif. J'ai le droit, c'est gratuit, je peux être dans cette rue, j'ai le droit d'investir ces lieux, c'est un espace inclusif et ça fait partie de la construction de l'individu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres urgences qui prennent le plan sur le politique? Je trouve que c'est une bonne idée de poser cette question-là en cette année super politique, hein, puisque c'est vraiment une année électorale par excellence, avec toutes les élections européennes, élections belges à différents niveaux. Attention que parfois, cela pourrait être justement utilisé pour mettre de côté un thème ou l'autre. Or, en fait, ce sont des thèmes qui sont intimement reliés et qui ne doivent pas être mis en concurrence. Et je trouve ça vraiment intéressant que vous puissiez mettre la question du réchauffement climatique sur la table, parce que c'est typiquement le genre d'enjeu qui vient et qui est utilisé à tort et à travers. Si on vient parler de lutte contre la pauvreté, on va dire oui, mais enfin on a de telles exigences en termes de lutte contre le réchauffement climatique qu'on peut pas tout faire. Et à la fois, si on va parler des engagements face aux enjeux qui sont des enjeux tout à fait objectivés par le GIEC, hein, vraiment des experts au niveau international et scientifique, et on va dire, bah écoutez, on peut pas tout faire, on peut pas travailler sur le réchauffement climatique et en même temps lutter contre la pauvreté. C'est faux, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir des politiques inclusives et à la fois lutter contre le réchauffement climatique. Chacun peut prendre sa part, mais ça commence aussi par le travail d'inclusion et de prise en compte des populations les plus précarisées qui finalement payent des factures d'énergie plus chères, des factures d'eau plus chères et qui bien évidemment ne peuvent pas quelque part protéger leur maison de la même manière que d'autres. Si vous me donnez encore une minute, je voudrais juste donner une expérience extraordinaire que les volontaires et les permanents et permanentes liégeoises de Entrée des Fraternités Vivre Ensemble ont organisé. Après le terrible moment des inondations, particulièrement à Verviers, les associations de lutte contre la pauvreté sur place, elles ont été aussi vulnérabilisées, hein, puisqu'imaginez-vous quelque part une banque alimentaire où il n'y a plus de frigo. Parce qu'il est foutu en l'air. Eh bien, Jean-Pascal Van Ieperzeel a été rencontrer ces associations et il a été, mais vraiment, il l'a dit, chamboulé par ce qu'il a pu voir, parce que c'est un expert, il connaît ses chiffres, il connaît les réalités. Et puis il a dit, là, c'est la vraie vie, c'est la vraie réalité, je comprends ce que ça veut dire. Et voilà, les deux enjeux qui sont mis ensemble par la vie, en fait, tout simplement.
J'aimerais encore vous poser une question au moins sur cette thématique. Vous parliez de climat, et le climat et la pauvreté sont des objectifs de développement durable des Nations Unies. La pauvreté, éradiquer, si on peut dire, la pauvreté dans le monde, c'est le premier objectif. Alors déjà, on peut se demander comment, à 6 ans de la limite pour ces buts que les Nations Unies sont donnés, on est toujours à ces chiffres-là chez nous. Mais comme vous l'avez dit, Axel, on est dans une année électorale et on va réélire tous nos dirigeants. Alors qu'est-ce que ces personnes qu'on va élire pourraient faire? Si vous aviez un conseil à leur donner pour lutter contre la pauvreté en Belgique, qu'est-ce qu'ils pourraient faire?
Aller travailler avec les associations de terrain. Elles trouveront les solutions avec eux.
Benoît ?
Il y a un principe de la doctrine sociale de l'Église qui, quand on prend une décision politique, on se demande quelles sont les conséquences pour les plus pauvres, les plus fragilisés, les plus vulnérables. Et on parlait, comme Axel Fischer l'a fait, d'une géographie, la pauvreté. Hein. Déjà, dès 2014, Christophe Guillouis parlait, le sociologue français parlait de la France périphérique. Et donc, c'est une question de géographie, c'est une question culturelle aussi. Il y a une question d'insécurité culturelle, le fait de ne pas avoir les codes, pas accéder. Et donc, Et il y a aussi, me semble-t-il, aussi une responsabilité des politiques de toujours se demander c'est quoi les conséquences des décisions que je prends. Et il me semble que moi, je présenterai la situation de manière un petit peu moins irénique qu'Axel Fischer du point de vue de la, parfois, de l'incompatibilité et de la tension entre des priorités. Quand on parle, par exemple, de la voiture thermique, un moteur thermique qui sera interdite à la vente en 2035, je me demande, tiens, quand moins les pauvres circuleront. Est-ce que ceux qui ont pris la décision de cette interdiction, pour des motifs climatiques, très bien, est-ce qu'ils se sont posé la question du plus précarisé, du plus vulnérable, celui qui habite dans un coin périphérique, comment il ira? Ce sera les techs qui viendront le chercher, dans quelles conditions, combien lui prendra son transport, hein. C'est bien d'obéir à des impératifs. Il faut aussi, pas seulement l'éthique de conviction, aussi l'éthique de responsabilité, et toujours en se demandant qu'en sera-t-il de la situation du plus précarisé. Je pense que on est d'accord que ceux qui ont de l'argent pourront toujours s'en sortir. Quelles que soient les décisions prises de manière commune, hein, au niveau de l'Europe, les riches pourront s'en sortir. Le pauvre, tous. Donc, soyons attentifs à ne pas pénaliser, même pour des motifs où tout le monde peut s'accorder.
Est-ce que les politiques ils peuvent réellement se mettre à la place des plus pauvres et comprendre ce que leurs décisions vont impliquer? Parce qu'on peut imaginer, eux, ils n'ont pas de problème d'argent. Ça, je pense que c'est un fait avéré et tout le monde peut être d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'ils peuvent réellement s'en rendre compte? Même en venant sur le terrain, est-ce que ça ne va pas juste les frapper 10 minutes et puis ils vont être de retour dans leur voiture et c'est oublié?
Moi, je pense que le cœur humain peut se transformer à la rencontre de l'autre, vraiment. Après, c'est sûr que la connaissance des réalités de vie, elle est complexe, hein, quand on a un certain type de travail, quand on est toujours dans les mêmes milieux, quand on a une voiture de société, etc. Je pense que c'est vraiment difficile de se rendre compte qu'il y a quelque chose de très, très, très différent qui peut être vécu. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir favoriser des temps de rencontre. Et que les exigences sociales doivent être mises en priorité. Je suis tout à fait en accord avec Benoît là-dessus. Mais elles peuvent rejoindre des enjeux climatiques. Et donc, par exemple, je pense à la Fédération des services sociaux qui, dans le cadre de cette préparation d'élections, demande une réforme complète du tarif social de l'énergie, de l'intervention sociale sur l'eau, pour que ça soit accessible à l'ensemble des ménages qui en ont besoin. Et la lutte contre le gaspillage ou la lutte contre le réchauffement climatique passe aussi par des mesures comme celle-là.
Énergie, transport, eau, on fait référence là à des choses communes.
Et essentielles.
Auxquelles tout le monde devrait avoir accès dans des conditions, pour un minimum. Enfin, il devrait y avoir, c'est ce qu'on appelle les communs. Gaël Giraud, que vous avez invité lors d'un précédent décryptage, a une réflexion là-dessus. Hein. Maintenant, il est au centre avec et donc il mène une réflexion. Je crois que c'est en effet quelque chose de capital. De pouvoir aussi compenser cette inégalité croissante entre les hauts revenus et les personnes défavorisées. Et donc, c'est vrai que moi, comme théologien, évidemment, je suis moins optimiste, hein, sur le cœur humain, parce que autant on peut se convertir au contact notamment de la pauvreté, des situations difficiles, mais on peut aussi s'endurcir. Donc, il faut faire attention, être toujours vigilant que cette disproportion avec cette inégalité des revenus ne croisse pas.
Je vous propose de faire une petite pause en musique, de clôturer ici ce sujet. Je trouve que c'est une bonne conclusion que Benoît vient de nous faire. Et pour faire cette pause, nous allons écouter Sting avec Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et vous écoutez toujours Décryptage, votre émission Cato Bell sur RCF. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité avec moi, j'ai en studio Axel Fischer et Benoît Bourgine. Et nous allons maintenant passer au second sujet de notre émission qui touche à l'antisémitisme. Alors avant de vous donner les derniers chiffres sur le sujet publié par UNIA, j'aimerais redonner ici quelques définitions afin que nous puissions tous, ici en studio et pour nos auditeurs également, faire la différence entre antisémitisme, antijudaïsme et antisionisme. Voilà, ces trois thèmes qui se rapprochent, mais on ne parle aujourd'hui que d'antisémitisme normalement. Donc le 1er juin 2017, le Parlement européen a adopté la définition suivante d'antisémitisme. C'est donc une certaine perception des juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non, et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. L'anti-judaïsme et l'hostilité à l'écart de la religion juive, cela fait notamment référence à l'attitude du christianisme envers le judaïsme pendant une de longues périodes de notre histoire, ça s'est terminé avec le Concile Vatican II qui a mis fin au texte anti-judaïsme. C'est comme ça le mot, judaïste ?
Judaïque,
merci. Et l'antisionisme est le refus de l'existence même de l'État d'Israël. Et ce n'est donc pas du tout notre sujet du jour. Alors les chiffres maintenant, selon le dernier rapport d'UNIA qui porte sur les années 2018 à 2022, l'Agence pour l'égalité des chances a ouvert 291 dossiers pour antisémitisme. À noter que le nombre par an diminue sur ces 5 années. Il passe de 80 dossiers en 2018 à 31 dossiers en 2022. Et au vu du contexte actuel, UNIA a également publié dans son dernier rapport les chiffres des dossiers ouverts entre le 7 octobre 2023 et le 7 décembre 2023. Entre ces deux dates, un total de 91 dossiers ont été ouverts en lien avec la guerre israélo-palestinienne, 66 d'entre eux pour des faits qui mentionnent explicitement l'ascendance juive. 8 signalements faisaient référence à l'origine palestinienne ou arabe ou aux croyances religieuse islamique. Autre constat, sur ces 91 dossiers, 37 concernent la partie francophone du pays, 54 la partie néerlandophone du pays, et cette tendance d'avoir plus de dossiers du côté néerlandophone est aussi visible de 2018 à 2022. Et enfin, 85% des dossiers d'antisémitisme traités ces 5 dernières années par UNIA concernent des messages de haine, en ce compris le négationnisme et les délits de haine. Voilà. Je suis arrivée au bout de tous ces chiffres à vous donner. Alors, je le disais, il y a un moment, et il y a plus de dossiers localisables côté flamand. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette majorité de dossiers côté flamand et la montée de l'extrême droite de nouveau ces dernières années et encore maintenant avec les élections qu'on mentionnait tout à l'heure, et donc le nombre de dossiers de l'extrême droite ?
Benoît. Alors, je n'ai pas... Il y a une tradition, évidemment, au nord du pays, hein, par rapport à ce sujet de l'antisémitisme d'origine d'extrême droite. Il y a d'autres données du point de vue de Bruxelles, notamment. En 2011, il y avait une étude de Marc Elkarous pour les élèves néerlandophones de Bruxelles, chez qui il a trouvé, hein, c'est le professeur de la KU Leuven, 48% d'étudiants, d'élèves musulmans qui avaient des clichés antisémites, c'est-à-dire 3 fois plus que les élèves qui sont athées. Les élèves catholiques aussi avaient une moyenne supérieure, témoignaient de clichés antisémites plus importants que les élèves athées. Ça, c'est une étude de 2011. Et puis, il y a l'étude chez les élèves bruxellois francophones de Joël Kotek et Tournemaine en 2020, qui a été publié par la Fondation Jaurès et qui s'intitule « Le juif et l'autre ». Et là aussi, on constate des chiffres de fragilité chez les élèves musulmans, plus portés à des clichés antisémites, mais les élèves aussi de tradition catholique ne sont pas tout à fait exempts. Donc il y a un travail à faire certainement à ce niveau-là, tant du côté catholique que du côté de l'islam, où il y a là encore aussi une fragilité. Il y a des intellectuels comme donc Kamel Daoud ou Boualem Sansal qui averti sur ce type de fragilité, ou un historien comme Georges Bensoussan qui attire l'attention sur aussi certains réflexes culturels ou religieux qui viennent de la Bible ou du Coran par rapport à l'antisémitisme. Mais c'est vrai qu'il faut bien dire que l'antisémitisme est un racisme, mais c'est un racisme qui est particulièrement vivace. Alors, en Belgique, il y a 30 à 40 000 juifs. En France, où c'est la première communauté d'Europe, ils sont 600 000. Là, on a eu une hausse très importante depuis le 7 octobre, où les chiffres complètent ce que vous venez de donner. Et par exemple, alors qu'il y en avait 40 atteintes, donc 40, oui, signalements pendant les mois d'été, chaque mois. En octobre 2023, il y en a eu 563. Donc, il y a eu une augmentation de 1000%. En octobre, où n'avait pas encore commencé la riposte israélienne. C'est-à-dire qu'en octobre, on était simplement au lendemain du 7 octobre, le fameux pogrom. En novembre aussi, 504. Et en décembre, ça baisse. 175. Et ce que constatent les analystes, c'est aussi un rajeunissement de ces manifestations d'antisémitisme, c'est-à-dire que ça a lieu de plus en plus à l'école. Donc il y a un certain rajeunissement. Donc il y a une vigilance à avoir, me semble-t-il, sur cette question, surtout que il y a une dimension mondiale. On pourra en reparler, mais au Royaume-Uni et aux États-Unis, où là c'est un assez nouveau, dans les campus américains, on a eu beaucoup de manifestations et qui ont porté à une fragilisation aussi de la sécurité des étudiants juifs sur ces campus.
Alors, Benoît, vous avez fait la comparaison avec les autres mois précédant le conflit. C'est vrai que je n'ai pas donné le chiffre, mais en moyenne, en 2022, il y a 4 à 5 signalements pour des actes antisémites par mois en Belgique. Donc, comme ça, on peut comparer aussi pour la Belgique. Benoît parlait du fait que, ben voilà, il y a des études qui parlent des religions qui ont des conceptions antisémites ou ce genre de choses. On va parler de la religion chrétienne, hein, puisque c'est a priori celle de tout le monde dans ce studio. Est-ce que dans notre éducation chrétienne, on a encore ces perceptions antisémites qui ressortent, selon vous? Est-ce que c'est une impression?
Je pense qu'en tout cas, les programmes scolaires, il y a une volonté, quelque part, de l'éducation de pouvoir intégrer des enjeux complexes comme celui qu'on touche aujourd'hui. Donc, je dirais que pour moi, il y a une évolution positive là-dedans, aussi parce qu'il y a une vision de l'histoire que je dirais par rapport à la guerre 40-45, un peu plus décrispée, dans le sens où moi j'ai vu ma grand-mère souffrir, par exemple, de voir des Allemands sur la plage française. Aujourd'hui on n'est plus dans une génération où on va souffrir émotionnellement directement de vivre ce genre de situation et de les ressentir comme violentes. Donc il y a une plus grande capacité, je pense, aujourd'hui de pouvoir intégrer l'histoire comme source d'apprentissage. La position d'entraide des fraternités et vivre ensemble sur ce genre de questions est très très très, très claire, hein. Nous sommes pour un pacifisme et un dialogue interreligieux, ce qui implique le fait de pouvoir connaître les autres religions et que ça soit un mouvement mutuel et que donc on puisse que des juifs ou que des chrétiens, que des catholiques puissent également apprendre à connaître la religion musulmane. Et je vois vraiment d'un œil très très positif des écoles où il y a la possibilité qui est donnée aux élèves de pouvoir suivre un cours, je ne sais plus comment on l'appelle, mais
de
un
citoyenneté.
Cours où, non, c'est pas le cours de citoyenneté, c'est à l'intérieur de ces cours de citoyenneté, mais c'est une option dans ce cours de citoyenneté où justement les étudiants et les étudiantes ont la possibilité d'apprendre un peu ce que sont les autres religions. Et cela me fait penser à la marche, si je peux en parler maintenant, mais d'une marche que je trouvais très très impressionnante dans sa logique d'action et de regroupement. C'était une marche qui a eu lieu le 10 décembre 2023, et qui a été initiée entre autres par l'Union des progressistes juifs de Belgique, hein, l'UPJB. C'était une marche nationale contre l'antisémitisme et tous les racismes. C'est une marche à laquelle nous avons pris part. On a co-signé, on a été partie prenante. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'était dans un contexte particulier. Il y a rien à faire, Benoît, à ce moment-là, la guerre était là. On en parlait tous les jours. Il y avait vraiment une intensification de la guerre entre Israël et Palestine. Avec l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, je pense quand même, en tout cas selon les acteurs et actrices qu'on peut entendre autour de nous, ben on parle quand même d'une recrudescence d'actes. Donc je ne connaissais pas les chiffres que vous avez donnés, Benoît, mais moi j'entends parler de recrudescence. Et pourtant, c'était une marche qui était complètement pacifique, qui a quand même réuni plus de 4000 personnes selon la police, donc ça veut dire sans doute plus, et qui était une marche qui avait un message assez percutant, je trouve, puisque le message, c'était ni déni, ni instrumentalisation. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait des personnes qui viennent marcher avec eux à des fins racistes ou islamophobes. Et je trouve que c'est intéressant de le faire. Et aussi parce que finalement, ça leur permettait de nous aider finalement à dissocier, et vous l'avez fait très bien, Armel, et je vous en remercie, à dissocier antisémitisme d'une critique de la politique coloniale du gouvernement d'Israël, ce qui sont des choses tout à fait séparées. Donc, ni déni, ni instrumentalisation. Et puis, à côté de ça, il y a aussi le plus jamais ça à l'égard de qui que ce soit.
Alors, je parlais de l'éducation chrétienne qu'on a a priori tous reçue. Nous sommes sur une radio chrétienne. L'émission est produite par un média catholique. Et nous nous exprimons visiblement tous contre l'antisémitisme qui, je rappelle, est punissable par la loi. Et pourtant, notre Église, elle a longtemps dénigré les Juifs. Comme je le disais, l'antijudaïsme, il fait partie de notre histoire à tous. Est-ce que on est... Alors, c'est peut-être une question... J'ai peut-être lancé un pavé dans l'eau, mais est-ce qu'on est les mieux placés pour parler de ça aujourd'hui?
Il me semble qu'on est les mieux placés pour être vigilants sur tout retour d'antisémitisme sous quelque prétexte que ce soit, parce que l'antisémitisme, il a mué. Quand nous étions à la manœuvre, nous, les chrétiens, les catholiques en particulier, pendant tout le Moyen-Âge, après la première croisade en 1096, a débuté pour la chrétienté médiévale un cycle tragique de persécutions, d'accusations, avec le phénomène de bouc émissaire dont les Juifs étaient les victimes, la minorité persécutée dans l'Occident médiéval. Nous avons cette responsabilité malgré tout. C'était pour des raisons théologiques, le peuple déicide. On inventait aussi des tas de choses comme des meurtres rituels qu'on attribuait à des communautés juives, des meurtres rituels de jeunes chrétiens.
Vous pouvez peut-être expliquer ce que ça veut dire déicide pour nos
auditeurs. Déicide, c'est on est dans la semaine sainte, on accusait les Juifs d'avoir tué Jésus, le Fils de Dieu, donc d'avoir tué Dieu. C'était une motivation théologique d'une agression physique, d'une discrimination, d'une attitude tout à fait terrible, hein, tout au long du Moyen-Âge. Hein, donc ça, il faut, et même dans nos régions, hein, puisque l'histoire en a été faite en long et en large. Alors d'abord, c'était des raisons théologiques. Alors évidemment, il y avait d'autres raisons économiques. Hein, malgré tout, tuer une population, c'est aussi s'approprier ses biens. Bref. Et puis, ça a mué. C'est devenu raciste au XIXe siècle avec les c'était la race qui devait être exterminée. XXe siècle avec le nazisme, et le nazisme qui était un racisme absolu, puisque même les catholiques d'ascendance lointainement juive à 2-3 générations étaient considérés comme des juifs et ont été comme tels exterminés. Hein, il y avait 2 paroisses catholiques dans le ghetto de Varsovie, par exemple. Hein. Et puis malgré tout, au cours des dernières années, et je vais transgresser un mot d'ordre que Armel vient de nous donner tout à l'heure, c'est que l'International Holocaust Remembrance Alliance a introduit dans la définition de l'antisémitisme un certain type d'antisionisme, pas l'antisionisme comme tel, parce que vous avez très bien fait de faire la différence, mais le fait que Il ne pourrait pas être accordé aux Juifs ce qui est accordé à tous les autres peuples, à savoir la possibilité d'une libre autodétermination politique. Attention, c'est vrai que vous avez raison qu'il faut jamais commencer à parler d'antisémitisme pour en fait protéger ce qui ne doit pas être protégé. On doit pouvoir critiquer les Juifs. On doit pouvoir critiquer, a fortiori, un gouvernement. Hein, tout à fait. Mais remettre en question le droit pour un peuple à la libre autodétermination, là, on franchit une limite. Et l'Union européenne a adopté cette nouvelle mue de l'antisémitisme. Hein, c'est un certain antisionisme, peut-être antisémite. Donc, mais foncièrement, puisqu'on parle d'éducation, et comme catholique, et cette vigilance qu'on doit avoir particulière, je crois que finalement, on vient de parler d'une tragédie, mais avec un happy end, parce que vous y avez fait allusion, les 70 dernières années, c'est le happy end, espérons qu'il soit définitif, c'est-à-dire de tournant d'un enseignement du mépris, avec des bases théologiques dans l'Église catholique, jusqu'à une reconnaissance pleine et entière de ce que un auteur contemporain, Jean-Miguel Garib, appelle l'impossible substitution. Parce que finalement, le préjugé anti-juif, sur base religieuse que les chrétiens avaient, c'était le fait de dire mais l'Église a remplacé le peuple juif et ils n'ont pas de, de raison d'exister encore. Et dans cet ouvrage récent, Jean-Miguel Garrigue, ça s'appelle « L'impossible substitution », paru cette année aux Belles Lettres, il indique le dossier qui finalement résume 70 ans de révision interne qui nous permet de regarder avec un peu de recul, nous catholiques, mais aussi beaucoup de vigilance, c'est-à-dire on est bien placé pour le savoir. Il est facile de céder à des discriminations, pour quelque raison que ce soit, religieuse ou politique.
Alors, avant de vous donner la parole, Axel, je vais en profiter pour donner une deuxième référence littéraire à nos auditeurs. C'est un livre qui s'appelle « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien » qui a été rédigé par la Conférence des évêques de France, qui aborde justement toute cette historique de l'Église catholique et par rapport à la religion juive. Axel, vous vouliez rebondir?
Oui, premier élément. Pour moi, le happy end aura vraiment lieu quand il y aura une fin de guerre entre Israël et Palestine et que les populations pourront vivre ensemble harmonieusement. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais insister. La deuxième, c'est est-ce qu'on est les mieux placés? Je dirais, mais en tout cas, pas si on reste dans l'entre-soi, ça c'est sûr, mais que l'on puisse en parler comme chrétien, cela me semble évident. Hein. C'est une manière de vivre l'Évangile que de pouvoir aspirer à une paix et à une inclusion. Maintenant, l'enjeu, c'est évidemment la question du risque de banalisation et de l'importance du coût de l'éducation et donc de la culture. Et du travail de mémoire. J'avais envie, si je peux, Armel, faire un toute petite incise sur ce film extraordinaire, incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, si les auditeurs, auditrices ont pu le voir. Je vous le conseille, c'est The Zone of Interest, qui a gagné l'Oscar du meilleur film international, entre autres, réalisé par Jonathan Glazer. C'est un film incroyable, parce que ça parle de la vie quotidienne de la famille du commandant du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et ça parle, en fait, d'indifférence et d'habituation à l'honneur, à l'horreur. L'honneur, au contraire, c'est de pouvoir se rappeler que ceci est un message universel qui nous parle encore aujourd'hui par rapport à énormément de situations dans le monde. Et ça nous parle aussi de qu'est-ce que l'on veut faire de l'histoire, qu'est-ce qu'on veut faire de la mémoire. Et il y a quelqu'un à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve que j'admire, il y a beaucoup de personnes que j'admire, mais j'admire énormément, c'est la docteure Valérie Rozou. Valérie Rozou qui a travaillé à partir de la situation au Rwanda, mais Afrique du Sud également, entre autres, sur la question du travail de mémoire. Et en fait, Valérie Rozou fait la distinction entre les risques d'être dans une logique d'oblitération et d'oubli, qui peut créer alors de la frustration et de la répétition, mais le risque aussi d'être dans de la survalorisation. Et elle entend par survalorisation le fait d'utiliser des éléments ou des faits pour alimenter un conflit et ainsi inciter à la haine, ce qui fait qu'on rentre aussi dans un cercle vicieux. Et elle met en avant les vertus d'un travail des mémoires, donc plus un travail de mémoire au singulier, mais des mémoires au pluriel, et donc de pluralité et de dialogue.
Voilà. Ben, heureusement, je vais devoir arrêter cette partie d'émission ici, même si vous avez des discours très passionnants, je trouve, des points de vue passionnants. Mais sinon, on va plus avoir beaucoup de temps pour la dernière partie d'émission. Donc, nous allons faire une pause en musique avec un peu de belge dans la programmation. Et on écoute Oui ou Non de Angèle.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux. Peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu J'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes, quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous sommes de retour pour cette dernière partie de Décryptage sur RCF. J'ai avec moi en studio Axel Fischer et Benoît Bourgine et il est déjà l'heure de passer à vos zooms. Alors Benoît, vous voulez nous parler d'un commencement, Axel d'une fin. Est-ce qu'on commence par le début ou par la fin ?
Je vais être très rapide, ça me permettra à Axel de pouvoir développer ce qu'elle a à dire. C'est simplement pour signaler un ouvrage que j'ai découvert ces derniers jours et grâce à la venue à la Nuit des Religions qui a eu lieu à Lucé Louvain la semaine dernière. Une professeure de littérature française de l'université de Malouba en Tunisie qui a été invitée en 2022 par le Collège Belgique à faire des conférences sur les origines de l'islam, Mohammed et le califat. C'est-à-dire, elle s'est intéressée, alors qu'elle était spécialiste de Raymond Queneau, en 2011, après la Révolution, en Tunisie, à s'intéresser à l'historicité de la vie de Mohammed et aussi aux premières successions, la transmission du pouvoir dans le premier califat. Et l'Académie royale de Belgique a eu la bonne idée de publier ces conférences, et vous les avez sur YouTube, mais vous avez aussi en 100 pages un ouvrage qui s'intitule « Aux origines de l'islam, Mohammed et le califat » par Ella Ouardi, O-U-A-R-D-I. Et c'est très impressionnant, moi j'ai énormément appris sur où en est l'état des connaissances, sur ce qu'on sait de Mohammed, et ce qu'on sait de la première transmission du pouvoir dans l'islam du 7e siècle. Donc, vraiment une réussite académique, mais aussi une réussite, vous parliez tout à l'heure, de la connaissance mutuelle de nos religions. Là, je trouve que ça contribue énormément à cette connaissance.
Voilà, encore une référence à lire. Merci beaucoup, Benoît. Alors, Axel, vous vouliez nous parler de la fin de la campagne de Carême.
Mais oui, c'est un temps important de l'année liturgique. C'est un chemin et nous, on a, Entrée des Fraternités, a parcouru avec vous une partie et avec les partenaires du Congo, de l'Est du Congo. Vous savez qu'à l'Est du Congo, il y a un conflit qui s'est réintensifié aussi. Goma, la ville de Goma, est encerclée par les forces rebelles du M23. Et voilà, au centre de ce conflit, il faut pouvoir se le dire, il y a une volonté expansionniste de pays voisins, l'attrait de la terre et de ses richesses minières. Et cela nous regarde parce que il y a une part de convoitise de la part de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des matières premières critiques pour notre consommation, notre GSM, des voitures électriques, etc. Et donc, voilà, vous partagez qu'on a eu une très, très belle campagne de carême avec des partenaires extraordinaires et très courageux qui ont sillonné toute la Wallonie et Bruxelles. Et puis, voilà, c'est un temps aussi de solidarité, hein, cette période-ci, pour pouvoir vivre pleinement le message de l'Évangile. Et donc, si jamais vous-même, cher Benoît, cher Armel et nos auditeurs, auditrices ont envie de contribuer à cet effort, vous pouvez faire un don sur le site d'internet entraide.be ou carrément faire un virement directement au BE 68 4x0 4x0 34 34 et je vous souhaite une belle montée vers Pâques.
Merci, voilà, l'appel est lancé à nos auditeurs, n'hésitez pas à être généreux. Et il est déjà temps pour nous d'accueillir Pierre Granier qui, comme toutes les semaines, va venir nous présenter le dimanche de la semaine. Pierre, dites-nous, que peuvent lire nos auditeurs dans le dimanche ?
Bonjour Armel et bonjour à tous. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un dimanche très pascal qui a été mis dans les boîtes aux lettres de nos lecteurs cette semaine. Le ton est donné en couverture avec la photo d'une représentation d'un chemin de croix barré du titre « Quand la passion déchaîne les passions ». Effectivement, il est de coutume lors du Vendredi Saint de commémorer la passion du Christ. Et dans certaines régions du monde, cela se traduit par des processions, des grands shows et des fidèles reconstitutions historiques. Presque trop fidèles parfois, avec des scènes sanguinolentes jouées par des jusqu'au boutistes qui pensent que souffrir comme Jésus leur permettra d'expier leurs péchés. Un petit tour d'horizon de ce qui se fait en la matière vous est ainsi proposé en pages 8 et 9. Il est agrémenté d'un article dans lequel deux professeurs de théologie de la KU Leuven établissent les 5 critères décisifs en vue d'une bonne recontextualisation d'un récit religieux. Pour les connaître, il faudra donc lire le dossier signé Clément Laloyaux en pages 8 et 9, dossier suivi par l'une des questions les plus difficiles pour la théologie et la spiritualité chrétienne. Pourquoi Jésus devait-il souffrir et mourir sur la croix ? Christophe Herings y répond en page 10. Le grand entretien de la semaine a pour invité le philosophe et théologien Emmanuel Tourpe, dont le nouveau livre, publié tout récemment aux éditions Arthège, s'intitule « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le dernier mot de Dieu ». L'auteur, homme de médias, y développe une thèse qui n'est pas tendre à l'endroit des chrétiens. Il estime en effet que ceux-ci, et lui le premier, ont oublié de mettre en pratique le premier commandement du Christ, lui préférant d'autres notions comme la vérité ou l'espérance. Plus cinglante encore, il dit que les catholiques se sont fait intoxiquer par ce que la modernité a de pire. L'individualisme convictionnel, l'archipélisation des idées, le côté clivant des réseaux sociaux. Trois logiques qui l'ont emporté sur le « aimez-vous les uns les autres ». Ces propos ont été recueillis par Vincent Delcor et sont à lire en pages 2 et 3. C'est une rencontre inédite qui vous est également proposée dans ce numéro de dimanche avec Catherine, une employée funéraire formée à la thanatopraxie. Son métier consiste à préserver le corps du défunt et soigner son apparence pour les funérailles. Des soins de conservation, donc, voire de reconstitution, quand un visage ou une autre partie du corps ont été abîmés suite à un traitement médical ou un choc physique. Catherine nous parle de son métier, que peu de femmes exercent à ce jour, un métier singulier, certes, mais qu'elles pratiquent avec passion. Son témoignage nous est rapporté par Philippe de Gouy en page 7. Et pour terminer, allons voir ce que l'art nous dit, grâce à la plume de Pascal Hauten. Elle nous aide dans cette rubrique à décrypter des peintures d'artistes renommés. Cette semaine, il s'agit de « La résurrection de Jésus », peint par Rubens vers 1612 et que l'on peut admirer dans la cathédrale d'Anvers. Son article est à lire en page 14. Bonne semaine de lecture avec Dimanche.
Merci Pierre, merci Benoît, merci Axel d'être venu aujourd'hui.
Merci Armel, merci Axel.
Merci pour votre accueil.
Et à bientôt pour un nouveau décryptage.
J'espère.
À très bientôt.